Sur fond noir apparaît le logo du Festival de Cannes, une palme entourée d'un ovale. Festival de Cannes, un certain regard, prix de la Nouvelle Voie 2023. Des silhouettes avec des lampes de poche écrivent les lettres de Belgium Cinema Made in Wallonia Brussels. Sur fond blanc s'écrit en noir Memento International. Des lignes courbes grises bougent pour former le logo BBL.
Un nuage de sable clair se déplace dans le ciel, au-dessus d'un paysage désertique et aride. Le soleil brille sous un ciel voilé. Au sol, le vent forme de petites vagues dans le sable.
En coproduction avec New Amsterdam Film Company, Tosala Film. En coproduction avec Special Touch Studio, Radical Media Berlin, Serendipity Film, Big World Cinema. En coproduction avec BNP Paribas Fortis Film Finance, RTBF, Proximus, Vue et BTV, VRT, Canva, Canal+. Avec l'aide du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, New Dawn, Netherlands Film Fund, Netherlands Film Production Inventive, Berliner World Cinema Fund, la région Bruxelles-Capitale. Avec le soutien du gouvernement de la République démocratique du Congo et la participation de TV5 Monde.
Sur un cheval brun, un cavalier traverse le désert au galop. Il est vêtu d'une tenue ample et entièrement noire. Il porte un chapeau. Il atteint un champ d'épouvantail. Tous sont habillés de la même manière, avec des chemises de travail bleues et des pantalons foncés. Le vent s'engouffre dans leurs chemises. Le cheval ralentit et marche tranquillement entre les épouvantails. Le visage du cavalier est caché par un tissu noir. Au loin, dans la brume, sous un ciel blanc, le cheval s'approche lentement d'une grande étendue d'eau. Le vent y crée de légères ondées. Le cavalier descend de son cheval et détache des rameaux accrochés à la selle. Branche en main, il s'approche de l'étendue d'eau. Le cheval le suit sur quelques pas. Le cavalier est une femme. Dans sa longue robe noire, le visage dissimulé sous sa coiffe et les pieds nus, elle s'accroupit au bord de l'eau. Elle pose les rameaux au sol, sort un sein de sa robe, l'entoure de ses deux mains. Elle se penche en avant et le presse. Elle extrait de son sein un liquide violet qui se diffuse lentement dans l'eau. Les yeux clos, elle se redresse dans la lumière du soleil. Le liquide violacé trouble la clarté de l'eau. Écran noir. Dans un appartement. Une jeune femme blonde, de type caucasien, tond la chevelure d'un jeune homme de type africain. Ils ont la trentaine. Elle a les cheveux mi-longs et des yeux bleus. Il est assis sur une chaise dans la cuisine. Elle est debout derrière lui. Elle s'accroupit à côté de lui. Sa coiffe afro est séparée en deux par le cou de tondeuse. Il a une tache de vin sur la joue gauche. Elle hoche la tête. La jeune femme se redresse et le fixe. Attendrie, elle le regarde en souriant. Elle s'assied sur ses genoux. Elle a les deux bras autour de ses épaules. La jeune femme est enceinte. Elle porte un t-shirt blanc et un petit short rouge. Elle rallume la tondeuse et l'approche des cheveux de son compagnon.
S'attendons des jumeaux.
C'est la nuit.
Je voudrais leur donner les noms. Non. Je voudrais leur donner...
Il est devant un miroir. Il passe un peigne dans ses cheveux courts et un peu hirsutes.
Je voudrais leur donner le nom.
Il hésite et se concentre.
De leurs grands-parents maternels.
Il acquiesce et quitte la salle de bain. Il éteint la lumière. Il s'écroule dans le couloir. Au sol, son corps est agité par des convulsions. Ses yeux se révulsent, il a la bouche ouverte. L'image d'un visage d'enfant africain apparaît. Du liquide asperge le visage de l'enfant. Il est penché au-dessus d'une bassine d'huile. La jeune femme est à genoux à côté de son compagnon. Il fait jour dans une ville africaine.
Écrit en lettres rouges en surimpression, Kofi.
La circulation routière est désorganisée. Kofi et sa compagne sont assis sur une bordure d'un parking extérieur. Il raccroche. Trois grosses valises sont posées près d'eux. Face à eux, des guichets de location de voitures. Un homme sandwich vantant Nissan, Toyota, Suzuki s'approche.
En surimpression écrit en lettres blanches, Dimanche des Rameaux.
Dans une voiture, côté passager à gauche, la jeune femme est au téléphone. Elle place le téléphone devant Kofi qui conduit. Kofi conduit nerveusement, la circulation est dense, les abords de la route grouillent de monde. La jeune femme est amusée. La voiture quitte une route fraîchement goudronnée et s'engouffre dans un chemin de terre. Les roues du 4x4 forment un nuage de terre ocre sur une piste entre deux champs. Une petite flèche en bois indique Belphégor. La jeune femme regarde par la fenêtre, elle tient la poignée au plafond, elle se tourne vers Kofi, il roule paisiblement. La voiture approche d'un groupe au bord du chemin. Il y a des hommes et des enfants assis à plusieurs sur des motos. Kofi s'arrête à leur hauteur.
Excusez-moi, monsieur. Quel est le chemin vers la mine de Kapesa?
Ils ne font pas attention à lui et ne répondent pas. Un homme, chapeau sur la tête, se tourne vers un deuxième. Il regarde Kofi à travers un trou dans son chapeau. L'homme lève le bras et pointe son doigt dans une direction. La compagne de Kofi se retient de rire. Il sourit, un peu vexé. Des hommes et des femmes habillés de chemises et de pantalons bleus pénètrent dans l'enceinte d'une mine. Certains tiennent un sac en plastique. En arrière-fond, un immense terril obstrue le paysage. À l'arrêt dans leur voiture, ils observent les mineurs. Ils sont garés entre les bâtiments. Kofi ouvre sa portière. Il sort de la voiture et se dirige vers une porte ouverte, devant la barrière qui mène au site. Quatre mineurs passent devant la voiture. Kofi est à l'intérieur du bâtiment. Il discute avec un homme assis dans un bureau. Le bâtiment est vétuste. La pièce comporte un bureau en métal et deux meubles où s'entassent des classeurs. La pièce est entièrement vitrée et grillagée. Kofi est déçu. Il sort du bâtiment et fait non de la tête en direction de sa compagne. Elle s'approche de lui. Ils roulent. Tous deux sont attentifs à ce qui se passe dehors. À une cinquantaine de mètres de la route, des mineurs sont rassemblés en groupe au pied d'un terril. Kofi regarde dans leur direction. L'ambiance est animée. Les mineurs sautent en levant les bras. Deux d'entre eux tirent sur une corde, chacun à une extrémité. Kofi arrête la voiture. La route a une couleur noire comme le terril. Ils sortent du 4x4. Ils s'approchent du groupe. Les mineurs encouragent et rient. Deux hommes prennent des paris. Sur une butte de sable noir, quelques mètres plus haut, trois personnes observent le groupe sous un parasol coloré. Le couple arrive à hauteur des mineurs. La foule entoure un rodéo. Un taureau en bois est agité à l'aide de cordes et un homme tente de rester assis dessus. L'homme sur le taureau brandit son chapeau dans la lumière du soleil. Les mineurs tentent d'ébiller un homme masqué. Sur la butte, des jeunes aux parures léopards regardent la scène en contrebas. Ils tiennent dans leurs mains des liasses de billets. L'un d'eux est assis et observe les mineurs d'un regard grave et dédaigneux. Le 4x4 est en bordure de route. Il noue une cravate. Kofi porte un costume clair, une chemise blanche et une cravate bordeaux. Sa compagne, une robe longue blanche et noire sans manches. Elle ajuste le col de sa chemise. Il s'approche d'elle et l'embrasse. Le couple, main dans la main, entre dans le jardin d'une propriété. Il s'approche d'un homme qui les fixe durement.
Ah, Zabolo. Tu aurais pu faire un effort pour ta mère. Au moins, aller chez le coiffeur avant de venir.
Ils font quelques pas vers les invités. Les convives s'interrompent.
Salut.
Trois jeunes femmes des visages lisses de la tête aux pieds. Elles sont vêtues de couleurs vives. Kofi s'approche. Il serre une des jeunes femmes dans les bras maladroitement. Les trois feignent un sourire. Kofi passe son bras autour de l'épaule d'Alice. Une femme s'approche, le sourire de Kofi se fige. La femme a la soixantaine et porte une robe orangée. Elle a une cicatrice sur la joue gauche. Elle convie les invités sous une paillote. En retrait, Alice et Kofi suivent lentement. Sous la paillote, une grande table est dressée avec de la vaisselle jetable. Sur le piquet central est accrochée une photo en noir et blanc de Mboyo. Elle est entourée d'une couronne de fleurs. Alice et Kofi sont assis côte à côte. Les invités ne prêtent pas attention. Ils se regardent mal à l'aise. Kofi esquisse un sourire navré. Alice le regarde, perplexe. Kofi ne sait où se mettre. Il est tendu. Son regard se fixe vers l'autre côté de la table. Il est pétrifié. La mère s'assied face au couple. Tous deux restent immobiles. Elle les regarde fixement et consulte son téléphone portable. Kofi hésite. Elle ne le regarde pas.
Il fait deux shifts le dimanche. Bella, apporte-lui une boisson sucrée.
Alice hoche la tête timidement.
C'est toujours sur moi que ça tombe.
Bella sert à Alice une boisson sucrée orange vive. Alice lève son verre en direction de la mer et boit une gorgée.
Bonjour à tous.
Un homme d'une soixantaine d'années entre sous la paillote. Kofi fait signe à Alice de se lever. L'homme s'éponge le visage avec une serviette en papier. Alice lui tend la main.
Bonjour, oncle Malage.
L'oncle est amusé.
Oncle Malage, viens voir.
L'oncle lève les yeux au ciel et se dirige vers les cuisiniers. Il s'arrête derrière Kofi et l'entraîne par l'épaule. Il approche son visage de celui de Kofi et le regarde droit dans les yeux. La mère les regarde sévèrement. Kofi approuve de la tête. L'oncle s'en va.
Tout doux, mon bébé, tout doux. Tout doux, je suis là.
La sœur de Kofi prend son bébé dans les bras, elle le berce doucement. Alice s'approche de la jeune femme. Alice est déroutée. Kofi la rejoint. Il pose la main sur son épaule. La sœur se crispe légèrement et se tourne vers son frère. Elle est réticente. Kofi tend les bras. Il tient le bébé qui s'est endormi. Dans son sommeil, le nouveau-né bouge les mains. Alice lui touche le bout des doigts.
Votre petit pape est vraiment mignon.
Dans le dos de Kofi, la sœur fait un signe désemparé à sa mère en le montrant. Le nourrisson ouvre les yeux et regarde Kofi. Une goutte de sang tombe sur son visage. Kofi se pince le nez et penche la tête en arrière. La mère reprend son fils violemment. Elle aperçoit le sang sur son bébé.
Ils ont maudit mon fils. Zabolo lui a jeté du sang.
Tous les convives s'agitent et sont catastrophés. Bella court vers le bébé. Il a trois petites taches rouges sur la joue. Kofi tente de s'expliquer en bouchant ses narines avec ses doigts. Tous les convives le conspuent.
La marque du diable.
Sa mère le fixe avec un regard noir, tous les invités le dévisagent.
L'esprit voit tout. Que dit le jury populaire? Ils ont trahi les valeurs de l'hospitalité. L'esprit voit tout.
Ils sont dans une pièce sombre, Kofi agenouillé par terre. Un homme masqué plonge la tête de Kofi dans une bassine. Alice est retenue par le bras par le cuisinier qui tient une lance. Il reprend son souffle.
Que dit le jury populaire? Qu'ils ont trahi les valeurs de l'hospitalité. L'esprit voit tout. Que dit le jury populaire? Qu'ils ont commis une violence sur un enfant. L'esprit voit tout. C'est des conneries.
Deux hommes lui passent un sac de toile de jute troué par la tête.
Ils essaient juste de me faire peur.
Le cuisinier tient un briquet allumé devant son visage.
Ils veulent trouver une explication religieuse. C'est rien. C'est des conneries. Ne t'inquiète pas, c'est rien. Que notre sang ne disparaisse pas, m'entendez-vous?
L'homme masqué s'approche et lui tient la tête.
Que notre sang ne disparaisse jamais.
Alice regarde la mère de Kofi désemparée.
Me comprenez-vous?
Le pasteur masqué se rassied sur son trône. Son masque est constitué de longs cheveux blancs et d'une série de perles. Kofi est tremblant. Les convives le fixent et l'encerclent, les bras croisés. Deux hommes s'approchent et lui posent sur la tête un masque en bois à quatre faces.
J'ai honte pour toi. Cette marque est un signe d'intimité avec le mal. La marque du diable.
La pièce est éclairée par des bras zéro.
Le trou noir d'où tu viens ne te suffit plus. Tu es revenu pour commettre l'acte honteux, pour lequel tu seras rejeté.
Le pasteur tend une main et reçoit un marteau. Il reçoit un grand clou qu'il pose au sommet du masque en bois.
Numéro 1.
Alice tente de voir ce qui se passe.
Mentir à ta propre famille.
Le pasteur enfonce le clou.
Numéro 2.
Il en pose un second.
Essayez de maudire un enfant de ta propre famille.
Il tape sur le clou. Le cuisinier lui entend un troisième.
Numéro 3. La trahison. Le sang du Fils du Seigneur sacrifié. Pour nettoyer les péchés du pécheur et ses descendants maléfiques.
La mère de Kofi fixe la scène d'un regard absent. Dans le jardin de la propriété, au pied d'un très grand arbre, Alice tape de toutes ses forces sur le casque en bois de Kofi à l'aide d'un fer à repasser. Elle prend appui sur le tronc de l'arbre. À travers une fente qu'elle a créée dans la coque en bois, le visage d'Alice grimace sous l'effort. Des deux mains, elle tente d'ouvrir le masque. Le bois est résistant. D'un geste fort, elle parvient à détacher un morceau du masque. Dessous, Kofi est hébété. Il a le visage en sueur et les yeux dans le vague. Une voiture roule dans l'agitation de la ville. Diverses échoppes et déchets volumineux encombrent les abords de la route. Les passants sont nombreux. Assis à l'arrière de la voiture, une grosse valise à ses côtés, Kofi a le regard éteint. Il se tourne vers Alice. Alice est assise à côté de la valise. Kofi regarde face à lui. Il réfléchit. Alice acquiesce d'un mouvement de tête. Un bus jaune, américain, délabré, trône au milieu d'un terrain vague.
Écrit en grandes lettres roses en surimpression, Paco.
Un enfant en robe rose est debout sur le bus. Dans le bus.
Il faut vraiment le nourrir.
Paco porte une robe rose.
Avec autre chose que des biscuits et des chips. Mama Mula, tu me dois encore 500.
Mama Mula allait un enfant d'une dizaine d'années.
Paco, 500 ? Que fais-tu, mon chou ? Tu peux doubler ou tripler ta marge ?
D'autres jeunes garçons en robe rose sont derrière Paco.
C'est quoi le problème ? Nous paierons, comme toujours. Mais si tu n'es pas content, on ira chez Simba ou chez les Saiyans. Si j'étais une voleuse, ça se saurait. Pas vrai, les filles ? Oui, Mama Mula.
Paco se lève.
Simba est dans les antibiotiques ? Il veut bosser dans notre domaine. Arrange-toi avec Simba, on n'a pas de temps à perdre.
Il attrape des petits sachets de pilules colorées.
Hé, pourquoi tu réagis comme ça, Maki ?
L'enfant quitte les bras de Mama Mula.
C'est quoi le problème ? Dégage, on a des trucs à faire.
Paco se rassied, fâché. Mama Mula, la quarantaine, est accompagnée de quatre jeunes hommes maquillés. Une parade défile dans les rues de la ville. Une fanfare d'hommes joue de la trompette. Des hommes aux masques à plumes colorées dansent et tapent sur des tambours. Ils ont le torse nu, un pagne et un masque dans les tons verts et violets. Dans la foule, Paco et d'autres garçons portent sur l'épaule un cercueil rose. Paco a un diadème sur la tête.
C'est le combat de Pâques. C'est le combat des titans.
Un homme et un enfant vêtus et maquillés en rouge entament une danse au centre du défilé. Le public s'est arrêté pour les admirer. Un jeune homme danse debout sur le toit d'une voiture. Tout en portant le cercueil, Paco s'arrête, se retourne et fait un signe.
C'est leur truc de catch qui va tout bloquer pendant une heure.
Alice et Kofi marchent au milieu de la foule. Kofi est au téléphone. Maki, Paco et d'autres garçons portent le cercueil en dansant. Ils déambulent entre les voitures avec le reste du cortège. Un trou rond est percé sur un petit côté du cercueil. Sur la face supérieure est inscrit Maya à plusieurs reprises. Un catcheur danse avec les enfants. Il porte un masque avec des traits jaunes. À ses côtés, un homme brandit sa ceinture de champion de catch de Kinshasa. Alice et Kofi observent la scène à la fois amusée et perplexe. Sur le ring de catch, au milieu de la cohue, un animateur criait dans un mégaphone. Sur la piste, un des acolytes de Mama Mula, maquillé et portant un tutu blanc, présente une ceinture de catcheur au public.
Montrez-vous que vous êtes chaud aujourd'hui. Faites du bruit pour les gouzes et leur cercueil. Faites du bruit pour les gouzes et leur cercueil.
Paco et les gouzes montent sur la scène avec le cercueil rose. Certains d'entre eux portent des masques en bronze. Le public en liesse brandit des feuilles de bananier. Alice et Kofi sont proches du ring. Elle agite une grande feuille au-dessus de sa tête. Elle rit.
Je vais mourir. Je vais mourir. Gouze, incassable.
Le jeune maquis entre dans le cercueil et s'allonge.
Allez les gouzes.
Kofi est tracassé. Il se place derrière Alice et regarde autour de lui.
Nous allons vous montrer notre tour de magie. Ça s'appelle le gamin des rues scié en deux.
Le cercueil est fermé. Paco soulève une scie. La tête de Maki sort par le trou rond du cercueil. Paco découpe le cercueil en son centre. Maki crie en mimant la souffrance. Paco traverse toute la boîte avec sa scie. Il lève les bras. Il frappe sur le cercueil et exhibe la boîte qui se sépare en deux. Paco jubile et harangue la foule.
Allez les gouzes, incassables.
Depuis le ring, il aperçoit au loin Mama Mula qui discute avec le jeune homme aux attributs léopard. Mama Mula pointe Paco du doigt. Mama Mula et le jeune homme s'approchent d'hommes au masque vert et violet. Elle leur parle tout en fixant Paco. L'homme en tutu blanc danse sur le ring. Il tient la ceinture du champion de Kinshasa.
Faites du bruit pour les combattants.
Deux catcheurs sont sur le ring. Un homme en costume rayé avec un ventilateur au-dessus de lui les présente à l'assemblée.
Voici Sayo Makubi, ici Six Bolit.
Le premier catcheur est torse nu, il porte une grosse culotte rouge et il a le corps maquillé en blanc. Le deuxième, un catcheur de Kinshasa, porte une tenue jaune et noire et un masque de catcheur dans les mêmes tons. Dans une douche, Kofi s'asperge la tête à l'aide d'un petit récipient. Il passe la main sur son visage et s'aperçoit que son nez saigne. Il se mouille à nouveau et du sang coule à ses pieds, dans le bac de douche. Il quitte la salle de bain. Il entre dans une petite pièce sombre. Alice est allongée sur un lit avec des palettes en bois. Elle dort, les bras posés sur le visage. Il s'assied sur le lit et réfléchit. Il porte un pantalon de pyjama en satin rouge. C'est la nuit. Une nuée d'oiseaux vole dans le ciel teinté de rose. Le jour se lève doucement. Le ciel prend une couleur bleu clair.
En lettres blanches, lundi saint.
Dans le bus, Paco et sa bande dorment entre les vieilles banquettes. Ils ouvrent les yeux et regardent autour d'eux. Maki se redresse et se dirige vers l'avant du bus.
Ils nous virent, les enfoirés.
Les garçons se lèvent et tentent de sortir du véhicule. Les portes sont bloquées par des planches en bois depuis l'extérieur.
Simba, ils nous ont enfermés.
Dehors, la fanfare et les danseurs aux masques mauve et vert accompagnent les jeunes gens aux parures léopard. Simba lève le bras.
C'est ma zone ici, petite pute. Fais attention car si je t'attrape, on vous emmène gentiment hors d'ici. Sinon tu vas terminer comme ta petite sœur de merde.
Simba tient un bâton sur lequel est accrochée une robe rose.
Paco la fillette, regarde. Ah Maya, oui.
Une tête de bélier est fixée au sommet.
Connard. C'est tellement bon, tu baisses trop bien Maya.
Simba mime l'acte sexuel avec le bâton.
Oh Maya, tu vas trop loin Simba.
La bande de Simba lance des bouteilles sur le bus. Il ricane.
Paco, adieu.
Dans le bus, les garçons perdent l'équilibre. Une dépanneuse soulève l'avant du bus. Simba regarde l'enlèvement avec des yeux exorbités. La fanfare joue, les hommes masqués dansent. La dépanneuse fait avancer le bus. Les enfants tombent les uns sur les autres à l'intérieur du véhicule. Simba et sa bande pointent du doigt en riant le bus qui s'éloigne. Paco tente d'ouvrir une porte. Il s'appuie avec tout son corps. La porte arrière s'ouvre. Les gouzes sautent du bus.
Ils s'échappent, les enfoirés. Attrapons-les.
Paco et les jeunes garçons en robe rose s'échappent du bus et s'enfuient en courant. Simba et sa bande s'élancent à leur poursuite. Maki trébuche et tombe par terre. Simba se rue sur lui. Les autres gouzes continuent de courir. Paco se retourne vers Maki sans s'arrêter. Simba et ses acolytes frappent Maki. La fanfare continue de jouer. Les jeunes garçons s'éloignent du bus, de nombreux passants les regardent courir. Ils arrivent dans une rue boueuse et traversent de grandes flaques d'eau. Ils sont au nombre de 5. Paco tient dans ses mains un masque en bronze, les garçons tournent au coin de la rue. Ils poursuivent leur course, se faufilent entre les échoppes et des cabanons en bois. Paco regarde derrière lui et ralentit. Il s'arrête à bout de souffle. Il s'écroule par terre, son corps est pris de violents spasmes et ses yeux se révulsent. Ses camarades s'éloignent, il est couché sur le sol au pied d'une échoppe de vêtements. Alice et Coffee dorment, enlacés sur le petit lit en palette. Coffee remue légèrement, il ouvre les yeux. Il quitte la chambre et entre dans une vaste pièce éclairée par le soleil. Le séjour est rempli de cartons de déménagement empilés dans tous les coins. Certains ne sont pas fermés. Sur une table, il ramasse un cadre avec une photo de famille. Il observe, le visage triste. Alice entre dans la pièce, en pyjama. Elle rejoint Coffee près de la table. Elle regarde Coffee, puis jette un œil à la photo. La mère de Coffee y tient un bébé emballé dans des tissus. À ses côtés, un jeune garçon, un homme et deux jeunes filles. Tous les deux fixent la photo. Alice lève les yeux au ciel. De la fumée s'échappe du sol d'une décharge d'immondices. Un homme marche entre les cailloux et les détritus. Le soleil perce doucement derrière un ciel voilé. Une montagne de sable noir s'élève dans une zone minière. Au pied d'un terril, de grandes flaques d'eau reflètent le ciel. Trois travailleurs au casque rouge se tiennent debout sous un arbre. Un homme regarde son téléphone debout devant un conteneur. Dans un bus, Coffee est assis parmi des mineurs. Il regarde par la fenêtre. Un homme chauve d'une soixantaine d'années chante derrière lui. Coffee sourit. Il porte sa chemise et son costume beige. Il fredonne entre ses dents.
Fils d'Abel.
Coffee se retourne.
Quand l'école des mineurs appartenait à la Belgique, c'était votre hymne. Papa Abel ne te l'a jamais chanté? Chanté? Chanter n'était pas trop son truc. Bien sûr. On n'a pas vraiment envie de chanter quand on a une haleine de charbon.
Coffee acquiesce en souriant.
Moi, je m'y suis habitué et je m'en fiche. Je sais que sans nous, ce pays serait mort. Le monde serait mort.
Coffee se retourne et regarde devant lui, pensif.
Un léopard ?
Le bus croise le gang de Simba à vélo.
Aujourd'hui, même ceux nés après son époque commencent à regretter le dictateur.
Le mineur se rapproche de Coffee.
Vous, Congolais, vous faites trop d'enfants. Pour qu'ils soient vos esclaves, votre assurance vie et votre pension. Combien d'enfants as-tu? Je vais être père pour la première fois. Ma femme va accoucher dans 4 mois. En août.
Le mineur acquiesce par un hochement de tête.
Dans notre logique, il t'en faudrait 3 ou 4 de plus pour tes vieux jours.
Coffee observe le mineur qui se retourne pour tousser. Il se redresse sur son siège. Dans son costume, face au bureau d'accueil de la mine, Coffee observe les travailleurs qui arrivent. Au milieu du site se dresse une grande cheminée, une tour en briques et des entrepôts recouverts de tôle. Les derniers mineurs passent devant Coffee. Ils tournent la tête à droite et à gauche, contrariés. Il fait quelques pas. Il s'impatiente. Les mineurs, sac en plastique et lanterne sur l'épaule, s'éloignent. Kofi marmonne quelque chose entre ses dents, les bras ballants. Il regarde partout autour de lui.
Les enfoirés. Ils sont venus dans le bus avec des putains d'adultes.
Paco parle dans un écran.
Angeli, c'est chez nous. Ce bus était là avant ma naissance. Je sais, ça craint. J'ai oublié le diadème de ma sœur dans ce bus. Je suis désolé pour toi. Je ne sais pas où est Maki. Oh putain, t'es sérieux? Le mec est un psychopathe. Ne le tente pas. Dis-leur que demain après-midi, je serai à l'arcade de merde. On va régler ça un contre un. Il paraît que le gars se change en hibou ou un truc du genre. Il prend les gens dans ses ailes et ils disparaissent. Je m'en fous. Crois-moi, je l'ai vu dans mon rêve la nuit passée, ce bâtard. Je le vois en train d'essayer de fermer les paupières. Il commence à comprendre ce qui se passe. Il veut les ouvrir. Mais ça demande un effort surhumain. Car il sait qu'il va mourir. L'enfoiré.
Vision de Simba, les yeux clos. Il a les yeux jaunes dessinés sur les paupières. Paco ferme les yeux. C'est la nuit. La lumière est allumée dans une maison.
En grandes lettres vertes, ça là.
Alice tend une bouteille de vin. Salah a les cheveux rasés, très courts. Elle porte une longue boucle d'oreille et une robe mauve. Ils sont à table et terminent de manger. Kofi fixe sa sœur. Vision d'une femme allongée sur un lit allaitant son bébé avec du lait violet. Salah fait tourner son doigt sur son verre. La lumière s'éteint. Une bougie est allumée sur la table. Salah éclaire Kofi avec son téléphone. Il s'approche d'un arbre couvert d'enseignes lumineuses.
C'est un truc de fou. Ils disent qu'ils réactivent le courant à minuit.
Salah lui tend un billet.
En tout cas, on est là. C'est Pâques, merde. Les gens de la compagnie d'électricité doivent suivre les ordres de la sûreté.
Alice ne réagit pas. Devant Mobutu, s'étalent des dizaines de prises électriques. Alice regarde Kofi, dépitée. Kofi ferme les yeux. Alice baisse la tête, embarrassée. Kofi s'éloigne. Salah serre Alice dans ses bras.
Merde. Ma chatte me fait vraiment mal. Est-ce que tu as tes règles? Même pas. C'est une sensation de brûlure, tu vois. Ça fait déjà 2 semaines, c'est de pire en pire.
Salah est assise sur la cuvette des WC.
Et toi, ça va sur la route? Je vais dormir au prochain arrêt. Je suis épuisé, je devrais être là demain. Si, je n'ai pas de problème à la douane en Zambie. Tu sais comment c'est? D'accord, d'accord, mon amour. Tu me dis s'il y a un problème, hein? Prends soin de toi. Je t'aime. Au revoir.
Elle ramasse son téléphone à ses pieds et quitte l'appel vidéo. Elle se redresse et remonte sa culotte sous sa tunique jaune et noire. Elle pose son téléphone par terre et attrape un seau. Elle le verse dans les toilettes. Il fait nuit. L'orage éclate au-dessus de la ville. Des éclairs fendent le ciel. Des lumières sont allumées à l'intérieur des immeubles. Dans l'obscurité, sur un lit entouré d'une vieille moustiquaire, Paco est allongé sur le dos. Il est torse nu et regarde vers le plafond. La pièce est baignée d'une lueur orangée. Paco tourne la tête. Il redresse légèrement le torse pour attraper son téléphone posé à côté de lui. Il allume la lampe de poche du portable et la dirige vers le haut. Le faisceau lumineux dévoile un décor végétal peint au plafond. Paco balade sa lampe torche au-dessus de sa tête. Sur la fresque du plafond, parmi la végétation luxuriante, 2 enfants sont assis côte à côte et se font face. Paco cligne des yeux. Le soleil transperce l'épais feuillage de grands arbres. Dans une forêt tropicale, 2 enfants marchent main dans la main. Ils sont habillés comme sur la fresque. La fillette porte un diadème et une robe rose, le jeune garçon un polo bleu et un bermuda foncé. Ils marchent pieds nus et portent chacun un cartable sur le dos. Ils s'approchent d'une hutte colorée. Les murs de la cabane sont faits de friandises. Le jeune Paco décroche des sucres d'orge et s'empiffre de biscuits. Maya engloutit de la barbe à papa qu'elle arrache aux arbres.
Bonjour, mon enfant.
Une vieille femme s'approche d'eux.
C'est bon?
Elle a le visage partiellement caché par un foulard. Paco, gâteau à la main, se retourne vers sa sœur.
J'ai mieux à l'intérieur.
Les enfants la regardent, perplexes.
Allez.
Dans la nuit, la vieille femme tourne dans une énorme marmite. Le feu sous le chaudron éclaire les enfants assis par terre.
Où sont vos parents? Nous nous sommes perdus dans la brousse. Ils marchaient devant nous, on jouait et puis... On les cherchera après. Vous devez manger d'abord, pour reprendre des forces. Vous devez manger maintenant. Manger pour reprendre des forces.
Avec une grande cuillère en bois, elle remplit des bols en métal que lui tendent les enfants.
Manger, manger.
À même le sol, ils avalent goulûment la bouillie rouge.
Manger, manger.
Paco s'essuie la bouche et regarde sa sœur. Maya sourit, hoche la tête et continue de manger. Le jour s'est levé dans la forêt. Une épaisse fumée rose s'échappe de la porte et la cheminée de la hutte. Paco sort de la hutte en courant. Sans s'arrêter, il regarde derrière lui. Son visage est déformé par les cris. La silhouette de la vieille femme apparaît derrière la fumée rose. Dans la forêt, Paco court à toute vitesse. Il se fraye un passage dans la végétation dense. Il tient dans la main la robe rose de sa sœur. Dans un massif de feuilles, il s'arrête au pied de l'arbre. Il plonge le visage dans le tissu rose, relève la tête et ferme les yeux. Les rayons du soleil éclairent des branchages dans une lueur rosée. Le jour se lève, des éclairs se dessinent au-dessus de la ville.
En lettres blanches, Mardi Saint.
Le soleil du matin donne au ciel une couleur orangée sur les bâtiments en bordure d'une grande étendue d'eau.
Mon amour, il faut dissocier les apparences et les sens de l'esprit. L'esprit crée le bonheur et la souffrance. Il crée le nirvana et les émotions négatives. Erza est un obstacle à notre cycle infini. Je médite pour contrôler cette émotion, pour transformer ma rancœur en karma de joie. Nous serons l'antidote à cette infection, ce poison mental dans vos organes. Dans mes organes, le résultat de notre avidité. Poison mental de notre plaisir interrompu. Je n'ai pas la grippe, j'attrape la grippe, et elle fondra comme de la gelée blanche à la lumière d'un karma saint. Appelle-moi quand tu arriveras et nous nous régénérerons ensemble.
Tsala est allongée sur son lit. Son visage est couvert d'un masque de beauté verdâtre. Elle tient son téléphone près de son oreille. Tsala se redresse dans son lit. Elle dégage le drap et se lève. Elle se glisse entre deux rideaux et rejoint Alice assise à la table de séjour. Son masque tombe. Tsala pose son masque gluant sur la table et s'éloigne. Alice pose un couteau et touche le masque, curieuse. Tsala ouvre la porte à trois jeunes hommes enjoués. Alice s'approche.
Vous êtes chanceuse. C'est la promo de Pâques. C'est notre produit phare. C'est un répulsif. C'est impossible. Nous déménageons aujourd'hui. Nous n'avons rien commandé.
Un livreur se retourne. Il porte un bébé dans le dos. Tsala leur claque la porte au nez. Dans les rues de la ville, une dame balaye devant une quincaillerie. Des passants traversent un petit pont. Le mur du pont est rempli de graffitis à l'arrière des maisons délabrées. Des matelas s'entassent et forment de grandes piles devant une échoppe. Des maisons de fortune sont construites autour d'une ancienne voie de chemin de fer. Un homme nettoie une moto au Karcher. Une moto file sur la route. Dans un salon de beauté, Tsala se fait faire les ongles.
À quoi bon se faire dépister si on ne fait pas toutes les MST ?
Elle est au téléphone. Son visage se reflète dans un petit miroir rond posé sur la table. Une femme applique du vernis vert sur les doigts de sa main gauche.
Et encore couché avec mannequin, n'est-ce pas ?
Tsala est contrariée.
Elle t'a refilé quelque chose ?
Sur la table, un panier présente les différentes couleurs de vernis sur des faux ongles.
Erza, tu l'as fait ? Je l'ai vu, je le sais. Je vais l'appeler. Écoute. Ubes, qui tu veux ? Mais pas elle. Je lui ai sorti quelques-uns de mes moves préférés. Il en a besoin pour se sentir bien. Après ce qu'il a fait à Masekini, comment peux-tu l'accueillir ? Peut pas aller à l'hôtel ? C'est un sorcier et tu ne vois pas que Masekini est encore sous le choc ? Tu peux tout me dire, grande sœur. Ton secret est notre secret. C'est à propos de ton Sud-Africain ?
Sala est dans la cuisine avec deux de ses sœurs. Elle prépare un plat à base de viande et de légumes. Sala attrape un oignon qu'elle commence à éplucher.
Vous le gardez pour vous?
Les sœurs acquiescent.
Rien à maman.
Elles miment de fermer leur bouche à clé. Sala est hésitante. Bella est choquée.
Comment? Et c'est nous les villageoises? Regarde ça, la femme moderne. C'est ça les mœurs de vie avec votre polyamour. Vivre contre la volonté de Dieu, contre l'idée du couple. Et si cela infectait tes ovaires? Va voir ce médecin, il fait des miracles. Inflammation, hémorroïdes, infection, tout. S'il y a bien une médecine qu'on maîtrise, c'est celle-là.
La jeune sœur a posé une carte de visite sur le plan de travail devant Sala.
Spécialiste de rien.
Deux perruches reposent sur une barre en métal dans une cage. Un homme et un jeune garçon s'approchent de la cage. Ils entrent dans une pièce remplie de cages à oiseaux.
Papa, celui-là aussi a une tête à s'appeler Woody Wood. Coffee, il va falloir s'y habituer. C'est normal que Woody soit mort. C'est la fonction de ces oiseaux de mourir pour la société. Prends-en un que tu ne peux pas comparer à Woody, d'accord? Passe à autre chose. Les merles ne sont pas des oiseaux de compagnie. Tu dois en choisir un qui est vif. Et qui piaille fort. Fort. Tellement fort que tu l'entends du fond d'un puits.
Le père porte une barbe. Kofi est le seul passager du petit bus qui roule entre les bâtiments de la mine. Il a retiré sa veste de costume et ses mains reposent sur le dossier du siège devant lui. Il est abattu. Le véhicule passe devant le bureau d'accueil et quitte le site. Sala est dans son séjour. Elle porte une salopette en lin et un débardeur gris clair. Elle s'approche de Kofi, assis sur un canapé. Kofi est désemparée. Sala ôte des sacs et des vêtements du canapé. Elle s'assied à côté de son frère. Sala hoche légèrement la tête. Elle regarde Kofi avec tendresse et compréhension. Kofi attrape la main de sa sœur. Il se regarde ému. Kofi sourit. Kofi et Sala s'enlacent tendrement. Kofi a les larmes aux yeux. Il serre sa sœur fort dans ses bras. Sala ouvre le rideau de la porte d'entrée. Elle regarde à travers les barreaux de la porte. Elle ouvre. Ezra se tient sur le seuil. Il porte une chemise ample à manches courtes qu'il a laissée à moitié ouverte.
Ton fuckboy est là pour t'emmener vivre ta meilleure vie à Durban.
Sala l'accueille froidement. Dans la pénombre, Ezra et Sala sont assis dans une pièce délabrée.
Et quoi?
Une bassine est posée devant eux.
On ne peut pas attendre d'arriver à Durban. Pour voir un vrai médecin? maintenant, dis-moi comment tes vrais docteurs traitent cette merde. Il n'avait pas baisé Malika, on n'en serait pas là. Comment je pouvais savoir? Tu sais qu'elle ne se protège pas. Tout est beau discours. C'est au lit que le rapport de domination doit changer. Ça ne fonctionne pas.
Salah parle sans regarder Ezra. Le pasteur au masque blanc entre dans la pièce. Salah se lève.
Je sais qui vous êtes. C'est pareil, les deux sont liés.
Le pasteur rassied Salah d'une pression de la main et se place face au couple.
Approchez.
Il tend la main vers eux. Il a des dizaines de clés accrochées au poignet. Salah et Ezra se regardent.
La pureté est une condition sine qua non, c'est dans la Bible. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur esprit et leur conscience sont souillés.
Le pasteur plonge la tête de Salah dans la bassine.
Le corps n'est pas fait pour l'immortalité. Non, il est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Fuyez l'immortalité, peu importe le péché. Peu importe le péché commis, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'immortalité pêche contre son propre corps.
Elle lui jette un regard noir. Kofi appuie sur la sonnette d'une maison. La sonnette est décorée de petits strass roses. Le mur de la maison est peint en vert turquoise. Kofi porte une chemise rose pâle. Il a le visage tendu. La tête basse, il patiente devant la porte. Derrière la porte, sa mère tient la poignée sans ouvrir. Elle redresse la tête. Elle écoute attentivement. Elle lâche doucement la poignée de la porte. Kofi jette un œil derrière lui. Kofi est désespéré. Il glisse une enveloppe sous la porte. La mère regarde furtivement à ses pieds. Kofi ouvre la bouche, il hésite. Il esquisse un sourire de dépit. Sa mère reste muette derrière la porte. Deux grosses valises sont posées à côté de Kofi. Alice patiente dans la rue, quelques mètres plus loin. Kofi se retourne et sort son téléphone de sa poche. Il a dans le dos une grosse auréole de transpiration. Il porte son téléphone à l'oreille.
C'est la messagerie de Papa Abel. Je ne suis pas disponible.
Il rejoint le trottoir. Il a laissé deux valises devant la porte. Il glisse son portable dans sa poche. Alice s'approche de lui et le serre dans ses bras.
C'est quoi ce bordel ?
Ezra et Salah sont enlacés tête contre tête à même le sol.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ils ont des traits de peinture sur le visage et le corps.
L'huile de palme ne guérit de rien.
Leurs yeux sont clos. Ils sont nus. Les dessins sur leur corps s'assemblent en un même motif.
C'est. Je suis désolé.
Le pasteur s'approche du couple. Un petit groupe déambule aux abords de la mine.
Gouze, incassable. Gouze, incassable. Gouze incassable.
Dans leur robe rose, Paco et sa bande se dirigent vers le lieu du rodéo, au pied du terril. Simba, les bras croisés, se tient sur la petite butte avec ses acolytes. Les gouzes s'avancent au pied de la butte. Un ring de fortune est délimité par des cordes. Simba descend du tas de poussière noire. Une vingtaine de travailleurs, la fanfare et les danseurs, sont assis face au ring. Paco s'avance et passe sous une corde. Il tient dans sa main un masque en cuivre. Les autres gouzes ont un masque sur le visage. Simba passe à son tour sous la corde. Maki est ligoté à un poteau du ring. Une des acolytes de Simba lui relève la tête, ensanglantée.
Tu es sûr de vouloir rejoindre ta sœur au paradis ? On n'avait dit pas d'adultes dans notre business, bâtard. Mais tu es venu avec cela.
Paco montre le public. Simba lui fait face et jubile. Maki est à bout de force. Tsala et Ezra sortent rhabillés du cabinet du pasteur. La mère de Tsala les attend dans le couloir. La jeune femme s'approche de sa mère. Elle la fixe du regard. Celle-ci tend la main vers sa fille et lui touche doucement le torse. Ezra les observe un peu à l'écart. Salah regarde sa mère durement. Elle dépose dans la main de sa fille 4 petits sachets de poudre jaunâtre. La mère détourne la tête. Tsala a le regard triste et les yeux brillants. À l'arrière d'une voiture, Kofi a ouvert sa fenêtre. Il regarde dans le vide, perdu dans ses pensées. Son visage est empli de tristesse.
C'est le combat des titans, c'est le combat de Pâques. Pas de coups sous la ceinture, pas de coups de pied. Que le meilleur gagne.
Paco et Simba se toisent, chacun dans un coin du ring. Paco ramasse une poignée de talc. Il frappe dans ses mains et jette la poussière blanche vers son adversaire. Ezra est assis au volant d'une voiture. Sur le siège passager, Tsala triture les petits sachets de poudre jaune dans sa main. Elle ouvre sa fenêtre. Jette un regard aux petits sachets et les jette à l'extérieur. Dans le miroir du rétroviseur, Tsala a le regard triste. Simba et Paco s'avancent l'un vers l'autre.
J'ai quelque chose pour toi.
Simba ôte son petit chapeau en léopard et cherche quelque chose au niveau de sa ceinture. Paco suit ses mouvements. Simba se redresse et pose sur sa tête le diadème de Maya. Il sourit avec dédain. Paco fulmine. À l'arrière de la voiture, Kofi a le visage fermé. Il porte sa main au visage. Son nez commence à saigner. Il observe le sang sur le bout de son doigt et tente d'essuyer son nez du revers de la main. Il renifle doucement. À côté de lui, Alice regarde par sa fenêtre. Kofi se cale contre l'appui-tête. Il se tourne vers Alice et la regarde tendrement. La fanfare joue sur la petite butte. Les danseurs au masque mauve les accompagnent. Les mineurs dansent au rythme de la musique. Paco, le regard noir, fixe Simba. Simba ricane. Il s'écroule sur le sol. Paco tient un pistolet dans la main. Il le jette à ses pieds. Le gang de Simba fixe le sol abasourdi. Les gouzes ont leur masque sur le visage. Maki esquisse un léger sourire. Paco s'approche du corps de Simba. Il se penche et récupère la couronne de sa sœur. Il la pose sur le sommet de son crâne, victorieux. Écran noir. Une nuée d'oiseaux vole dans un ciel bleu pâle. Leur ombre se dessine sur le grand terril.
En lettres blanches, septembre.
Le site de la mine est désert. Le grand terril noir surplombe la carrière. Il fait jour. Un lampadaire est allumé sur le mur d'un bâtiment. Une couronne de fleurs blanches repose sur un cercueil. Deux couronnes de fleurs sont accrochées au mur. Tsala téléphone depuis un funérarium. La mère déambule dans un long couloir sombre. Au bout du couloir, un portrait des parents de Kofi est accroché au mur. Il est éclairé par des bougies, entouré d'une statue de la Vierge et d'un crucifix. Kofi et Alice traversent une passerelle surplombant un parking. Des voitures sont garées à côté d'un vieux lit en métal. Le couple pénètre dans un long couloir vétuste dont les murs sont peints en bleu turquoise clair. Chacun porte un nouveau-né en écharpe. Au bout du couloir, l'oncle Malage discute avec trois hommes. L'oncle Malage se retourne vers le couple. L'enfant que porte Alice a la peau noire, celui de Kofi a la peau claire. Kofi se retourne vers Alice. Vision du pasteur masqué. Malage leur jette un regard noir et leur tourne le dos.
En grande lettre orange, Mujila.
Un petit groupe de femmes entre dans le porche d'une maison par une porte métallique.
Nous devons aller aux deux endroits différents. N'oubliez pas que nous avons déjà été payés. Nous devons travailler comme on a l'habitude de le faire.
Elles ôtent leurs bijoux, se démaquillent.
J'ai peur qu'on nous vole nos affaires. Ne vous inquiétez pas, des gardes veillent.
Sur leurs vêtements colorés, elles enfilent des robes et des châles noirs de deuil.
Ça va, c'est bien. Soyez juste. Surtout, soyez juste.
Une par une, elles passent devant le portrait du couple Mososo jeune. Elles pleurent de manière exagérée.
Abel.
Vêtue d'une longue robe noire, Salah entre dans la maison. Elle passe devant le portrait de ses parents. Elle se dirige vers une pièce sombre, uniquement éclairée par des bougies. Agenouillées sur des matelas, les femmes agitent les bras et surjouent la tristesse. Salah les regarde avec méfiance. La mère de Salah est assise au centre des pleureuses. Le regard dans le vide, elle soulève le voile noir qui couvre son visage. Salah est impassible. Elle s'avance lentement. Les pleureuses s'agitent autour de la veuve stoïque. Salah s'agenouille face à sa mère et pose la tête contre sa poitrine. Celle-ci caresse doucement le crâne de sa fille, le regard toujours absent. Les femmes qui les entourent pleurent avec emphase. Certaines frappent le sol, d'autres implorent le ciel à travers de grands gestes des mains. Les larmes coulent sur leurs joues et leurs visages grimacent. De grosses gouttes s'écrasent sur le carrelage en damier. Les larmes des pleureuses coulent à flots et se transforment en grandes flaques sur le sol. Les femmes s'agrippent les unes aux autres dans une gestuelle théâtrale. L'eau commence à monter au pied des matelas. Une femme passe ses mains et ses pieds dans l'eau. Une autre, allongée sur le ventre, frappe de ses poings un matelas. De l'eau jaillit sous ses coups. Les pleureuses se traînent dans les flaques de larmes, leurs visages se déforment sous leurs cris de douleur faim. Au milieu de cette agitation, la mère reste immobile. Un nuage de buée envahit la pièce. L'eau continue de monter au niveau du sol. Agglutinées autour de la mère, sans bouger, les femmes pleurent en silence. Les flammes des bougies se reflètent sur le sol mouillé. Allongés sur un grand lit, Kofi et Alice entourent leurs jumeaux. Tous les quatre sont collés les uns aux autres. Kofi joue avec les mains de ses bébés. Kofi, pensif, reste muet. La mère de Kofi marche sur un chemin boueux. Elle arrive à la hauteur de l'échoppe d'un fleuriste, se faufile entre les présentoirs.
Bonjour.
Le fleuriste la salue en soulevant sa casquette bleue.
Maman Mujila, nous portons votre chagrin, nous comprenons votre douleur. Et je la partage pour alléger votre cœur.
Il remet sa casquette sur laquelle il est inscrit « Yes, you can ». Maman Mujila est embarrassée.
On revient de tout, sauf de l'absence. On revient de tout, sauf du vide laissé par l'absent.
Elle ne sait où regarder.
On revient de tout, sauf du vide laissé par l'absent, l'absent qui occupe tout l'espace.
Elle lui tend des billets. L'homme attrape des sachets de lettres faites en fleurs.
Tu sais, Maman Mujila, si tu n'as pas les moyens pour payer le cercueil, il y a un cimetière flottant du côté de Kimpembe, près de la rivière.
Mama Mujila marche sur un chemin dans une décharge. Des petites croix blanches sont plantées çà et là sur le sol.
On revient de tout, sauf de l'absence. On revient de tout, sauf du vide.
Elle déambule dans le cimetière rempli d'immondices, le long de la rivière.
Laissée par l'absent. L'absent qui occupe tout l'espace.
Elle s'arrête. Sur la berge d'en face, des hommes sirènes se prélassent sur une grande pierre plate. Mama Mujila les fixe. Un homme, presque nu, se tient debout devant un faux coquillage. Son sexe est couvert par un cône en papier. Les sirènes tiennent chacune une ombrelle. Mujila quitte la berge, faite de terre et de détritus. Kofi suit Maki dans une cage d'escalier en béton. Il marche le long d'un couloir donnant sur l'extérieur, du linge sèche suspendu sur un fil. Le bâtiment est en mauvais état.
Reste là.
Maki disparaît dans une pièce. Kofi tente de jeter un œil à l'intérieur. Il patiente sur le palier. Paco apparaît dans l'embrasure de la porte. Il croise les bras sur son torse. Il porte un t-shirt à manches courtes dans les tons beige et marron.
Comment tu t'es fait ça ?
Une large cicatrice traverse la joue droite de Paco.
C'est pour ça que tu as arrêté le catch.
Paco est fuyant.
On va faire affaire avec les Z. Z pour Zambien, là-bas. Ils ont plus de respect pour les enfants qui font de l'argent. Quelle est la différence ? Les escrocs sont des escrocs, non ?
Maki rejoint Paco et lui parle à l'oreille. Il lui remet une bombe de peinture rose et s'en va. Paco tend la peinture à Kofi.
Tiens, pour repeindre le cercueil. Je t'attends demain, mais ne m'arnaque pas.
Kofi fait un petit signe de la main et tourne les talons. Paco le regarde s'éloigner. Il a le regard méfiant. Deux hommes décrochent d'un mur le portrait de Mboyo et le posent sur un fauteuil qu'ils embarquent. La couronne de fleurs roses qui entourait le portrait reste accrochée. La pièce est presque vide. Debout contre un mur, Mama Mujila observe les déménageurs qui quittent la pièce. Elle porte une robe sombre en dentelle et ses cheveux, coupés courts, sont un peu défaits. Elle est abattue. D'un pas lent, elle suit les deux hommes dans le couloir. Oncle Malage la rejoint dans le hall. Malage transpire. Malage est embarrassé. Il se retourne et se dirige vers la sortie. Décomposé, Mujila s'adosse contre le mur ocre du couloir. Le vent soulève le voile blanc de la porte d'entrée. Appuyée contre un mur, Mama Mujila hoche la tête négativement. Sur le sol carrelé d'une pièce vide, une petite cage en bois abrite l'oiseau vert choisi par Kofi, enfant. Tsala et Mujila sont assises par terre, côte à côte. La couronne de fleurs roses est accrochée au-dessus de leur tête. Elles se tiennent les mains. Mujila regarde dans le vide. Sala écoute sa mère avec émotion. L'oiseau s'agite dans sa cage. Sala pose la tête sur l'épaule de sa mère. Les deux femmes rapprochent leurs visages l'un de l'autre. Elles se regardent. Sala embrasse sa mère sur le front et la prend dans ses bras. Elles se serrent tendrement. Les larmes coulent sur leurs joues. Dans la pénombre de la pièce vide, mère et fille sont enlacées sur le sol en damier. Paco et Kofi déambulent dans un cimetière. Les tombes sont éparpillées au milieu des herbes hautes. Ils se frayent un chemin entre les pierres tombales. Dans un bureau vétuste. Kofi dépose un document sur le bureau d'un homme âgé. Paco et Kofi sont mal à l'aise. Ils sont debout dans les bureaux délabrés des fossoyeurs. Au milieu du cimetière verdoyant, Paco se recueille devant une tombe. De loin, Kofi l'observe avec tendresse. Paco a le regard triste. À ses pieds, un tas de terre est décoré de coquillages et d'étoiles de mer. Une petite croix en bois rose surplombe la tombe. Il y est inscrit « Maya, 2010-2023 ». Un collier de coquillages entoure la croix. Paco y ajoute le diadème de sa sœur. Une petite figurine du Christ est fixée sur un crucifix en coquillage. Un escargot glisse lentement sur des fleurs roses au pied de la croix en bois. Les bras ballants, Mujila entre dans une pièce. Elle porte une robe noire et un foulard noir noué sur la tête. Elle fait quelques pas et s'arrête. Dans sa chambre, deux lits simples aux draps fleuris dépareillés sont éloignés d'une cinquantaine de centimètres. Un crucifix en bois est accroché au mur. Une planche obstrue la fenêtre. Mujila se penche et pousse un lit contre l'autre pour n'en former qu'un seul. Mujila grimpe à quatre pattes sur le lit. Elle s'allonge sur le côté et pose la tête sur son bras droit entre les deux oreillers. Elle se recroqueville. Les yeux fermés, Mugi la repose au centre des deux lits rapprochés. Un réveil mécanique est posé sur une petite table de nuit à gauche du lit. Elle se réveille doucement. Elle ouvre les yeux. Elle se redresse et regarde face à elle. Le lit devenu un lit double trône dans la carrière minière. Au milieu du désert, le champ d'épouvantail s'embrase devant Mugila. Elle se lève, pose les pieds nus sur le sable. Il fait presque nuit et une fumée noire envahit le ciel. Mugila se dirige vers les hommes de paille en feu. Des morceaux de braise se détachent des épouvantails et tombent sur le sol. Mugila descend de la butte de sable où se trouve le lit. Elle pénètre dans le champ de flammes. L'air hagard, elle déambule entre les épouvantails. Elle regarde de tous les côtés. Des morceaux de tissu brûlés volent au-dessus de sa tête. Mugila est désorientée. Les épouvantails ne sont plus que des croix de bois brûlées. Mugila traverse l'épaisse fumée noire en grimaçant. Dans l'immense désert, sous un ciel noir, elle s'éloigne des épouvantails et se met à courir. Dans l'obscurité, Mugila grimpe au sommet d'un grand terril. En contrebas, dans l'infrastructure de la mine, un petit groupe est éclairé par les néons des machines. Une fanfare joue de la musique, certains portent des flambeaux, d'autres un cercueil. Mugila les regarde, émue. Dans la mine, un petit cortège défile. La fanfare est en tête, suivie par deux mineurs portant les lettres fleuries qui forment le nom, Abel. Kofi et d'autres hommes masqués portent le cercueil rose à bout de bras. Kofi s'interrompt. Mugila avance vers le cortège. Kofi regarde sa mère qui s'approche, il est déconcerté. Il lâche lentement la poignée du cercueil. L'homme masqué derrière lui prend sa place. À la lueur des flambeaux, Mérifice se rapproche. Kofi se tient à un mètre de sa mère. Il porte un costume noir. Il est ému. Il se tourne vers le cercueil. Il secoue la tête négativement. La tristesse se lit dans les yeux de Kofi. Mugila s'approche et le serre dans ses bras. Kofi pose lentement sa tête sur l'épaule de sa mère et l'étreint à son tour. Mujila a les yeux remplis de larmes. Elle se dégage de l'étreinte et recule. Kofi la regarde qui s'éloigne, décomposée. Mujila se dirige vers l'entrée creusée dans le minerai. Éclairée par deux veilleuses jaunes, l'ouverture est obstruée par un éboulement de gravats, de planches et de poussière. Mujila atteint l'excavation. Elle s'agenouille sur le sol et commence à retirer de grosses pierres dans le tas de gravats. Elle les jette derrière elle violemment. Mujila est en colère. À main nue, elle creuse la terre devant elle. Ses ongles grattent le sol de la mine et la roche enfouie. Elle creuse avec acharnement. Couverte de poussière, elle déplace les pierres et la terre qui se trouvent face à elle. Dans son dos, à quelques mètres de distance, le cortège funèbre l'observe en silence. Allongée sur son lit, dans sa chambre, Mujila a les yeux ouverts. Elle a la tête posée sur son bras droit, entre les deux oreillers. Elle ferme les yeux.
En grandes lettres blanches, sur un fond noir, augure. Un film de Baloji. Dédicacé à BBL, à la mémoire de MS et TK. Producteur, Benoît Roland. Ingénieur du son Yann Deka, monteur son Eric Grigsport, mixeur Danny Spreuel.
Kofi dans son appartement avec sa coupe afro.
Kofi, Mark Zinga.
Mujila porte une longue tunique noire et un chapeau noir. Elle tient un cercle en bois sur lequel est collé un tulle avec des motifs noirs.
Mama Mujila, Yves Marina Gnaoua.
Paco est devant un cadre végétalisé avec des fleurs et des feuilles tenues par deux gouzes.
Paco, Marcel Otete Kabeya.
Tsala est devant une échoppe dans une galerie commerçante.
Tsala, Eliane Oumouhir.
Deux éventails mauves s'écartent et laissent apparaître Alice dans sa robe noire et blanche.
Alice, Lucie Debé. Une audiodescription réalisée par Chambre Noire. Auteur, Léonard Lacroix, Benjamin Autonove. Voix générique, sous-titre, Rosario Amedeo. Voix audiodescription, Angélique Leleu. Mixage, Arnaud Carrette, Bowling Studio. Superviseur malvoyant, Jean-Michel Bertinchamp.
Sous-titrage,
Babel Subtitling.